1988.
Nous avons essayé la dernière fois de préciser les divers modes d'autorité pour mieux comprendre les diverses modalités d'obéissance. À chaque autorité correspond un type d'obéissance. On obéit autrement à un père qu'à un chef d'armée. On obéit autrement à un père, à une mère, qu'à un père. C'est curieux. C'est pourtant comme ça. À chaque type d'autorité, il y a un type d'obéissance. Donc si on faisait un cours sur l'obéissance, il faut avoir toutes ces autorités en place. Je faisais ce tableau pour me demander si l'éthique religieuse implique un nouveau type d'autorité. Alors, au niveau famille, l'éthique religieuse peut apporter un nouveau type d'autorité à propos de la procréation. En voyant d'une manière plus nette que la procréation impliquant une coopération de Dieu, une coopération avec l'acte créateur de Dieu, c'est plus juste. La procréation a quelque chose de sacré. Et si elle a quelque chose de sacré, elle implique une alliance avec Dieu. Ou si vous voulez, elle implique une alliance avec Dieu, elle est sacrée. Je dois donc respecter l'alliance avec Dieu. L'autorité de Dieu intervient immédiatement, comme dans toute alliance. Elle n'est pas seulement que lointaine, elle est immédiate. Et l'autorité de Dieu ici m'est dévoilée par le respect à l'égard de la nature humaine. Puisqu'il n'y a pas d'enseignement immédiat de Dieu au plan éthique religieuse. Ça ferait intervenir un autre élément qui n'est pas strictement une éthique religieuse. Les commandements de Dieu, tels qu'ils nous sont donnés dans la tradition judaïque, n'interviennent pas directement en éthique religieuse, puisqu'il présuppose la foi. Même si ces commandements peuvent se comprendre en eux-mêmes uniquement par la nature humaine. Très délicat ça, vous voyez. Je crois qu'il faut le dire. L'éthique religieuse n'implique pas la foi. Mais je peux comprendre que par le point de vue philosophique, je rejoins la sagesse de Dieu, et que la sagesse de Dieu implique un ordre, et que je respecte cet ordre de la sagesse de Dieu. Et que Dieu demande que nous ayons le respect de la nature humaine, et que l'art ne peut intervenir qu'en respectant pleinement la finalité de la nature humaine. Et là, une éthique religieuse a quelque quelque chose de beaucoup plus explicite. Puisque c'est dans la lumière de la sagesse de Dieu, créateur, et celui qui gouverne l'humanité, que je dois être attentif à ce qui est contraire à la nature humaine, ou ce qui est selon la nature humaine. C'est un regard de sagesse. Un regard de sagesse qui réclame, vous voyez, la philosophie. Très curieux, ça. Et c'est très intéressant, ce point de vue-là, de voir que, de fait, je dois respecter un ordre de la sagesse de Dieu. La nature humaine n'étant pas objet de l'art humain, mais étant un donné, et un donné sacré, puisque cette nature implique la création de l'âme immortelle, l'éthique religieuse doit respecter cet apport divin d'une nature humaine qui est ouverte au mystère même du Créateur, parce qu'elle dépend directement de lui. Et donc, je dois obéir à cette sagesse divine, la respecter. Respecter les intentions profondes de la nature humaine, explicitées par cette vision de sagesse, ou actuées par cette vision de sagesse. Et ça, je respecte cela d'une façon radicale, parce que la sagesse de Dieu est présente dans la création. Et que cette sagesse de Dieu étant présente dans la création, je n'ai pas le droit de considérer la nature humaine comme un objet d'expérimentation. La nature humaine prend dans l'éthique religieuse une dignité unique que je respecte. Je ne peux pas aller contre l'appétit fondamental de cette nature humaine, mais je dois respecter, je dois tout de suite reconnaître que ce n'est pas si commode que cela, dans une lumière de sagesse divine, de sagesse du Créateur, de reconnaître ce qui, dans l'homme, l'enfant relève de certains appétits désordonnés et ce qui relève d'un appétit ordonné par la sagesse de Dieu. Autrement dit, je me heurte devant ce problème extrêmement difficile au point de vue éthique religieuse, de voir qu'il y a dans l'homme des tendances mauvaises. Des tendances naturelles mauvaises. Ce qui fait que la fameuse loi naturelle, vue dans la sagesse de Dieu, qui s'impose à moi, est au fond très obnubilée, très cachée. La loi naturelle n'est pas si facile que ça à regarder, étant donné qu'il y a dans l'homme dès son berceau, dès sa naissance, des tas de tendances mauvaises. Ce que le croyant appellera les conséquences du péché originel. Et en éthique religieuse, je suis bien obligé de dire et de constater que selon les traditions religieuses, il y en a qui me disent que l'homme est né dans le péché. Donc, je ne peux pas discerner d'une manière très nette ces tendances qui viennent du péché et ces tendances naturelles qui viennent de la sagesse de Dieu. Et ça, ça pose un très gros problème, point de vue éthique religieuse. Par rapport à tous les problèmes de la procréation, par rapport à tous les problèmes de la morale sexuelle. Ça pose un très gros problème, il faut bien le voir. Que je crois en éthique religieuse, il y a un point d'interrogation. Petit à petit, l'homme va acquérir une rectification de son intelligence et de sa prudence pour déterminer en lui ce qui est conforme à la sagesse de Dieu et ce qui ne l'est pas. Donc là, il y a un problème que l'éthique religieuse ne peut pas résoudre d'une manière immédiate. Elle peut le résoudre en faisant appel à la métaphysique, en faisant appel au jugement de sagesse philosophique. Je crois que l'éthique religieuse ne peut le résoudre que comme ça. Et alors là, c'est là l'apport du jugement de sagesse à l'éthique religieuse, qui se fonde là-dessus, et non pas sur les progrès de la science. Là, je crois qu'on peut être très farouche en éthique religieuse. Contre Mono, si vous voulez, qui dit que l'éthique varie selon les progrès de la science. Donc là, on peut faire ce discernement, mais il faut un jugement de sagesse. Et là intervient donc, vous voyez, l'autorité même de Dieu, du Créateur, qui gouverne sa créature créée comme une créature spirituelle, comme une créature capable de remonter jusqu'à lui, et capable de saisir, à travers sa propre nature, les tendances naturelles qui viennent directement de la sagesse de Dieu, et les tendances naturelles perverties. Ça, c'est, voyez, c'est le problème de l'autorité. Parce que je n'obéis qu'à celui qui a une autorité légitime. Je n'obéis pas au pouvoir. Mes tendances mauvaises, mes appétits naturels pervers, peuvent apparaître comme terriblement impératifs. Et donc, comme ayant un grand pouvoir, mais n'ayant aucune autorité. Tandis que mes appétits naturels légitimes sont revêtus de l'autorité de la sagesse de Dieu. Vous voyez ce problème très complexe, hein, je le dis bien très complexe, en éthique purement religieuse. Je prends l'exemple. L'homme a-t-il en lui un instinct de mort légitime? L'homme a-t-il en lui un instinct de vie légitime? S'il a en lui un appétit légitime de vivre, il y a un devoir de se nourrir. Il a un devoir de ne pas aller trop loin de ses forces. Il n'a pas le droit de se suicider. La question du suicide. S'il y a en lui un appétit naturel de mort, quand la situation est trop difficile, n'y a qu'une seule solution, c'est de disparaître. Et c'est normal. La situation est impossible. Vous voyez, problème de l'éthique religieuse. Si au contraire j'ai fait le discernement, nettement, dans la lumière de la sagesse divine, entre ce qui est un appétit légitime, naturel, et ce qui est un appétit pervers, je pourrais dire que l'appétit pervers dépend d'un pouvoir occulte que je ne peux pas préciser, mais que je porte en moi. Et que l'autre, au contraire, représente un appétit légitime qui est un reflet de la sagesse de Dieu. Et je pourrais ainsi discerner qu'il n'y a pas un appétit de mort. C'est faux. Il n'y a pas un appétit de mort légitime. Il peut y avoir un appétit de mort morbide, illégitime, devant lequel je dois lutter. Devoir impératif. C'est un pouvoir morbide qui provient de forces occultes. Parce que je sais, au point de vue tradition religieuse, qu'il y a des forces occultes. Je ne sais pas les préciser, mais je sais qu'il y a des forces occultes. Ça revient aujourd'hui comme ça. Paraît-il qu'autre l'autre jour, je ne l'ai pas vu, hein, ça m'a été dit. Il y avait une émission à la télévision du pouvoir des sorciers. Certaines magies pouvaient ensorceler quelqu'un, pouvaient aller jusqu'à le blesser. Et on montrait la recette. On communiquait ça. Et on apprenait aux gens de servir de ça, de certaines magies, qui, paraît-il, est efficace pour porter un sort à quelqu'un. C'était à la télévision. Vous voyez ça? Ça relève de quoi? Les traditions religieuses savent qu'il y a de la magie. Les traditions religieuses savent qu'il y a des sortilèges, qu'on peut jeter un sort sur quelqu'un. Ça existe. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Et non seulement aujourd'hui, on sait que ça existe, mais on en fait une propagande. Mais on peut dire que c'est illégitime de faire ça. Et mêlé. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a là un discernement entre autorité et pouvoir qui me semble très important en éthique religieuse, qu'on doit pouvoir arriver à faire. Tout ce qui est uniquement de l'ordre de l'efficacité, indépendamment de la finalité profonde de l'homme, relève d'un pouvoir, occulte ou pas occulte. Tout ce qui relève de l'autorité est en vue du bien de l'homme. Or, je n'ai pas à obéir à un pouvoir. Je dois au contraire résister à un pouvoir. Un pouvoir occulte. Et je dois au contraire obéir à une autorité. Une autorité naturelle, fondamentale, qui est le reflet de la sagesse de Dieu pour moi. Donc vous voyez, là, il y a un problème fondamental, qui est le premier problème de l'autorité, au plan religieux, ce qui me semble, par rapport à nous, par rapport à notre auto-éducation, et par rapport à l'éducation des autres. Ai-je le droit d'apprendre à un enfant de faire du mal à son voisin, ce qui n'est pas sympathique. Cette vie, c'est vraiment insupportable. et essayer de le détruire. Sans demander de permission, évidemment. Et j'ai un certain pouvoir. Alors, je vais commencer. Puis on verra bien. Et ça existe. On le sait. Je dois donc m'armer légitimement contre ça. Quelle est l'autorité qui apparaît de nouveau dans une attitude d'éthique religieuse? Je ne crois pas qu'au plan purement éthique religieuse, il y a un principe nouveau, si ce n'est une modalité nouvelle. Je comprends que l'autorité des parents est revêtue d'une modalité nouvelle, puisque Dieu est le créateur de l'âme immortelle et qu'il confie l'enfant dans sa fragilité à ses parents. Et les parents ont donc une autorité mandatée par Dieu, ce qui donne à l'autorité des parents une modalité beaucoup plus grande, un peu sacrée, voyez. Ce qui explique pourquoi dans l'écriture il est dit tu n'as pas le droit d'injurier tes parents, tu n'as pas le droit de les considérer sans respect. Mais toutes ces paroles qui sont terribles, hein, que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Ceux qui injurient leurs parents, ceux qui les attaquent, ceux qui ne les reconnaissent pas, ça c'est l'éthique religieuse. Parce que les parents ont une autorité qui est revêtue de la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui confie aux parents l'enfant dans sa petitesse et sa fragilité. Est-ce que ce revêtement de la sagesse de Dieu existe pour les autres autorités? L'autorité du maître. Dans la mesure où il recherche la vérité, pouvons-nous dire qu'il est revêtu dans une éthique religieuse, d'une modalité nouvelle, sacrée? Point d'interrogation. Dans la mesure où les parents confient leurs enfants à des maîtres pour une éducation qui soit religieuse, conforme à leurs pensées, je crois qu'on peut dire qu'il y a une certaine dépendance de cette autorité des maîtres à l'égard de la sagesse de Dieu. Et plus lointaine, elle est médiatisée par les parents. Est-ce que l'autorité de l'État est revêtue d'un pouvoir sacré? Je ne crois pas que ça aille jusque-là. C'est l'État, c'est la famille qui rebondit sur le point de vue familial. Le point de vue familial peut rebondir sur l'individu, c'est vrai. Donc médiatiser. Les éducateurs, en éthique religieuse, ont sûrement une dignité plus grande qu'en éthique purement humaine. Et donc, l'obéissance est revêtue d'une modalité nouvelle. Quelque chose de sacré. Tous ceux qui recherchent la vérité, et dans la mesure où ils la recherchent, tous ceux qui, dans l'éducation, essaient d'éveiller le sens religieux de l'enfant, une autorité sacrée. Et dans la mesure même où il essaie d'éveiller dans l'enfant ce sens religieux. Je ne crois pas que l'autorité religieuse, que l'éthique religieuse implique un nouveau principe d'autorité. Donc c'est uniquement un revêtement nouveau, une modalité nouvelle d'accentuation vis-à-vis de l'autorité pour bien la distinguer du pouvoir. Et faire comprendre qu'on obéit à une autorité et quand cette autorité est revêtue de l'autorité de Dieu, elle réclame une obéissance plus parfaite, plus profonde. C'est dans la mesure où une autorité revêtue de cette autorité divine, que cette autorité touche le cœur de l'homme. Et n'est plus seulement une autorité externe, temporelle. Ça me semble être le principe, qui va très loin du reste, et qui est très important, qui montre bien que l'autorité revêtue d'une certaine autorité divine va toucher ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, son éducation religieuse. Je ne crois pas qu'on puisse dire quelque chose de plus. Oui. Y a-t-il place dans le point de vue purement religieux d'un sacerdoce ? Il y a des sacerdoces dans les traditions religieuses. Mais, vous voyez, je touche là à des modalités particulières qui, la plupart du temps, relèvent d'un point de vue de foi. Révélation spéciale. Qui fait appel à la foi, n'est plus au sens strict une autorité religieuse, une éthique religieuse. Je sais très bien qu'on peut regarder comme une certaine médiation. C'est possible. Je peux donc regarder ça comme possibilité, mais pas plus. Pas comme nécessité. J'appelle, j'ai pris le point de vue de la famille. Exprès. Dans la famille, sûrement, à cause du problème de la procréation. Est-ce que le point de vue religieux va modifier l'amitié? Je ne crois pas. Elle va simplement relativiser l'amitié. Elle ne va pas le modifier. Elle la relativise parce qu'elle met quelque chose au-dessus de l'amitié, qui est l'adoration et la contemplation à l'égard de l'être premier. Alors l'adoration et la contemplation à l'égard de l'être premier relativisent, ça c'est très vrai, l'amitié humaine. L'amitié humaine n'est plus, si vous voulez, la fin exclusive de l'homme et de la femme. L'amitié humaine apparaît comme dépendante de cette relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus radicale, cette relation de l'homme à l'égard de son Dieu dans la création. Et alors, pardon, oui. Donc, à ce point de vue-là, vous voyez, on peut dire qu'il y a une certaine intervention au point de vue éthique humaine, mais c'est extrinsèque. L'éthique religieuse n'assume pas l'amitié. Seule l'éthique chrétienne l'assume. L'éthique religieuse ne l'assume pas. Elle relativise. Et alors, au point de vue politique, je dirais que c'est la même chose. L'éthique religieuse ne peut pas modifier la politique, mais elle la relativise, en ce sens que elle doit reconnaître que l'homme, pour être parfaitement homme, a besoin du point de vue religieux. Alors c'est là où se situerait tout le problème de la liberté religieuse. Alors on touche à un autre problème, la liberté, oui, sur laquelle on va revenir. Mais c'est bien de la situer tout de suite, si vous voulez. Le point de vue politique doit respecter la liberté religieuse. Parce que le point de vue politique humaine, la philosophie politique, doit reconnaître que l'homme a en lui un appétit religieux plus fondamental que tous les autres appétits. Qu'il y a dans l'homme, si vous voulez, une dimension religieuse qui est plus fondamentale que toutes les autres, et plus importante que toutes les autres. Et donc, la politique doit respecter ça. C'est là où l'éthique religieuse rappelle à la politique de respecter le sens religieux. Et non seulement de le respecter, mais de le promouvoir. En laissant à chacun le soin de discerner ce qu'est pour lui la vraie religion. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est le devoir de l'État de discerner quelle est la vraie religion. C'est un petit point d'interrogation là-dessus. Je ne crois pas. C'est un problème très grave et très important, vous voyez bien. Je ne crois pas que l'État puisse, en éthique religieuse, puisse discerner quelle est la vraie religion. Il peut simplement discerner quelle est la religion qui permet aux citoyens d'être plus citoyens. Et quelles sont les religions qui mettraient certains obstacles à l'homme d'être un citoyen parfait. Alors, voyez le problème qui se pose. Est-ce que la politique a le droit, dans une éthique religieuse, de faire elle-même ce discernement? Est-ce que la politique a le droit, par exemple, en tant que politique, dans une éthique religieuse, de favoriser telle religion plutôt que telle autre. De mettre une religion d'État. Et de dire les autres religions, nous les respectons dans la mesure où elles respectent la religion d'État. C'est un très grave problème, ça. Un problème très délicat. Si vous voulez, on peut essayer de préciser un tout petit peu. Parce qu'il y a un problème, hein. Ça c'est sûr. Vous voyez, l'attitude religieuse qui est transmise par les traditions religieuses, qui peut être transmise aussi par la foi, et je ne regarde pas la foi dans une éthique religieuse. Si on a affaire à un homme religieux qui a un pouvoir, une autorité politique, est-ce que son sens religieux va éclairer sa politique. Est-ce que le sens religieux est supérieur au bien commun politique? Ou est-ce que le bien commun politique est soumis au sens religieux de l'individu et de la personne? Voyez, ça, c'est un problème très très difficile, et c'est toute la question de la liberté religieuse. Ce point de vue-là, c'est très bon de le regarder. Point de vue éthique religieuse, c'est même nécessaire. Ça a l'air de nous faire dévier un tout petit peu notre point, mais non. Ça va ensemble, si vous voulez. Autorité, obéissance, liberté. Dans la mesure où il n'y a pas d'autorité, on laisse aux individus une initiative libre. Dans la mesure où l'autorité s'exerce, on canalise la liberté de chaque individu. Et on doit la canaliser intelligemment. C'est-à-dire là où on ne doit pas la canaliser, on ne la canalise pas. C'est ça, la canaliser intelligemment. Sans abus. En comprenant qu'on doit respecter cela. Vous voyez comme c'est délicat comme problème, la question de la liberté religieuse. Alors on touche là, vous voyez, tout de suite au problème de la personne et de la communauté politique. Qu'est-ce qui, dans la personne humaine, n'est pas soumis à la communauté politique? Il y a deux choses. Je reste dans l'éthique religieuse. Hein. Il y a deux choses. Le choix des amis. L'adoration, le culte religieux. Je crois que c'est cela qui, par rapport à la personne humaine, échappe au bien commun. Il faut le préciser. Je vous donne une piste. Comme une secte. Est-ce que l'État a-t-il le droit de discerner ce qui est secte et ce qui n'est pas secte? Oui. Comment pour l'État, la vie religieuse n'apparaît pas comme une secte? Parce qu'on l'a dit au moment de la condamnation des sectes, la possibilité de condamner une secte. L'État peut condamner les sectes. Dans quelle mesure? Par le fait même, l'État n'arrivera pas à condamner telle communauté religieuse. Très délicat, cette question-là. Et c'est ça que je regarde fondamentalement. La personne humaine à quelque chose qui dépasse, donc la personne homme, à quelque chose qui dépasse le point de vue du bien commun de l'État, dans le choix des amis. Puisque ça, c'est un problème de personne face à une autre personne. Or, la personne a quelque chose de spirituel qui lui permet de choisir un bien spirituel. Et le bien spirituel de la personne comme telle est au-delà du bien commun. L'État n'a pas le droit, si vous voulez, d'empêcher des amitiés au sens vrai. Donc l'État, comme État, n'a pas le droit d'imposer des mariages. Parce que ça repose sur la liberté même, ça. Donc, liberté. Liberté de l'homme. Et un droit de choisir un ami. Personne m'aime comme ami. Pourquoi? Parce que l'ami touche le point de vue du bonheur du bien spirituel, qui n'est pas le bien commun. L'ami n'est pas un bien commun. L'ami est choisi personnellement. Et s'il est choisi personnellement, il est choisi comme quelqu'un qui me permet d'atteindre ma fin. Ma fin humaine. L'ami étant celui qui me donne une fin personnelle au-delà du bien commun. Et donc le choix des amis échappe à l'État. Ça va déjà très loin, ça. Vous voyez, le choix des amis échappe. L'adoration et le culte religieux échappe aussi au bien commun. L'adoration interne, c'est évident. L'adoration interne, c'est évident, ça échappe à l'État. Mais l'adoration qui va se réaliser dans des sacrifices, donc dans un culte, n'échappe plus à l'État. Puisque c'est une chose visible, c'est une communauté de prière. Ici, il y a en face une communauté. Est-ce que l'État doit se désintéresser des communautés de prière? Non, il ne doit pas se désintéresser. C'est une chose qui existe. Est-ce que ça fait partie du bien commun politique? Non. Ça ne fait pas immédiatement partie du bien commun politique. Une communauté de prière, une communauté liturgique, une communauté où l'on prie. Une communauté où l'on s'aime, ça ne fait pas partie du bien commun politique. Donc le bien commun politique doit le respecter. Et il y a 36 manières de le respecter. C'est de faire que les réunions communautaires politiques sont permises à des heures impossibles. La nuit. Comment on ne peut pas circuler la nuit? Donc, pratiquement, elle est suprême. Alors, on ne va pas directement contre, mais on fait que ce soit impossible. Parce qu'on ne peut pas interdire. Ça touche la liberté religieuse. On ne peut pas interdire à un homme d'agir selon sa conscience. Ne peut pas violenter la conscience de quelqu'un. Or, cette personne a besoin de prier, en commun. Une prière liturgique, vous ne pouvez pas lui interdire. Ça fait partie de sa conscience. Ce que vous pouvez interdire, c'est que ce ne soit pas au moment où l'État a ses propres exercices. Non pas religieux, mais ses propres exercices. Ça, l'État peut faire que Il ne donne pas la part du gâteau. Il donne les miettes. Débrouillez-vous. Ça, ça peut se faire. Mais, c'est pas pour exercer une bonne entente, vous comprenez bien. Pour exercer une bonne entente, ils doivent s'entendre. Mais, l'État peut exercer son pouvoir d'une manière assez tyrannique, qui fait qu'il n'y a pas de condamnation d'une communauté, d'une réunion religieuse, mais on la rend impossible. C'est souvent ce qui se fait, du reste. Donc, pouvoir indirect, s'il vous plaît. On continuera ça.